Alors, je vais enchaîner avec ce que vient de dire, de présenter Aurélien, concernant justement le fait que le web n'est pas un hypertexte. J'y reviens juste assez rapidement pour évoquer ce point et donner éventuellement d'autres raisons que les siennes, qui me semblent également pertinentes. On a pu utiliser, notamment le cas de Bruno Bachimon en France, l'expression d'hypotexte, finalement, pour définir ce qui serait un sort de sous-hypertexte, un hypertexte qui n'aurait pas les, quelque chose qui n'aurait pas en fait les caractéristiques d'un hypertexte. Et cette expression convient tout à fait au web. On peut analyser le web de ce point de vue, c'est-à-dire en se disant que c'est un très mauvais hypertexte, que c'est un hypotexte, donc, pour tout un tas de raisons. C'est peut-être pas la meilleure manière d'aborder le web, c'est-à-dire de l'aborder par la négative. Et ce que je vais essayer de faire maintenant, donc en prenant le relais d'Aurélien, c'est justement de l'aborder de manière un petit peu plus positive et en le regardant pour ce qu'il est et non pas, cette fois-ci, pour ce qu'il n'est pas. Alors très rapidement, je reviens quand même sur cette question du rapport à l'hypertexte pour commencer. Il y a aussi une difficulté intrinsèque liée à la notion d'hypertexte qui est qu'il est très difficile de définir précisément ce qu'est un hypertexte. Alors, on peut revenir, comme l'a fait Aurélien, je pense qu'il a raison, sur l'origine historique de l'hypertexte avec Ted Nelson et puis toute une tradition Douglas Engelbart qui va avec, notamment une tradition aussi avec Engelbart d'augmentation de l'esprit qui remonte à Lee Klieder. Mais quand on regarde les définitions qui ont été données, notamment par les chercheurs, moins par les gens impliqués dans la fabrication des hypertextes, mais par les chercheurs de ce qu'était un hypertexte, on trouve en fait tout et n'importe quoi et des définitions extrêmement larges qui vont par exemple de la théorie littéraire avec les travaux de quelqu'un comme George Landau, qui, partie des travaux de Derrida, Barthes, Foucault, etc., de ce qu'on appelle les philosophes post-structuralistes. Donc déjà, il y avait une origine philosophique dans sa vision de l'hypertexte, hein. L'idée que la textualité n'était plus linéaire, l'idée qu'il y avait une perte de l'auteur, et que finalement les systèmes électroniques qui sont apparus dans les années 80-90, réalisaient d'une certaine façon des idées qui étaient des idées de philosophes. Donc une histoire un petit peu où la réalité vient rejoindre la théorie. Enfin, au bout de quelques années, la réalité se conforme à la théorie qu'il avait d'une certaine façon anticipée. Pas du tout causalement anticipée parce que les ingénieurs en général n'ont pas lu les philosophes français post-structuralistes, mais il y a cette idée comme ça, une sorte d'histoire téléologique qui est définie par les idées. Alors ce qui là encore a comme défaut finalement d'ignorer radicalement le web. Et lorsque le web est apparu, la réaction de George Landau, notamment dans des interviews mais également dans des livres, a été de dire oui, bon, on avait tout prévu, sauf que finalement ce qui est apparu c'est moins bien que ce qu'on avait imaginé. Donc c'est tout à fait ça, le web c'est exactement un hypertexte, mais c'est moins bien. Ce qui est quand même une déclaration qui... Alors si c'est moins bien, c'est peut-être autre chose. Si c'est tout à fait ça, pourquoi est-ce que c'est moins bien? Évidemment, on va y revenir dans un instant. Lorsqu'on regarde également les travaux sur les hypertextes, notamment dans la conférence ACM, ACM Hypertexte, c'était la grande conférence consacrée aux hypertextes à l'époque. On a des travaux qui vont, encore une fois, de la mise en œuvre d'idées issues des théories littéraires pour fabriquer des hypertextes, des hypertextes concrets, à des notions beaucoup plus centrées sur les graphes, et finalement parfois des gens qui font le lien entre l'ingénierie des connaissances et les graphes, et ce qui rejoint beaucoup plus les travaux actuels, notamment sur le web sémantique. Donc là encore, un sens qui permet de très ouvert, qui permet de rassembler des travaux extrêmement divers. Ted Nelson n'a pas été le seul à critiquer durement le web. Il y a toute une tradition comme ça de gens qui ont considéré que ceux qui avaient fabriqué le web, notamment Tim Berners-Lee, étaient des amateurs. Alors, l'image d'ailleurs qu'a présenté Aurélien sur la démo, c'était même pas une présentation en fait, c'était une démo, hein, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais en fait c'était une démo à la conférence Hypertexte, ACM Hypertexte 1991, parce que Tim Berners-Lee et Robert Caillou avaient envoyé un papier pour cette conférence, et le papier présentant le web a été refusé à la conférence ACM Hypertexte 1991. Ils n'ont eu le droit de présenter qu'une démo. Et pourquoi ça a été refusé? Précisément parce que le web n'était pas, du point de vue de l'hypertexte, effectivement un bon hypertexte. Il ne présentait pas les fonctionnalités auxquelles on pouvait s'attendre pour tout bon hypertexte, on ne va pas plus bas. Et donc, effectivement, ils n'ont eu le droit de présenter que sous forme de démo. Quelques années plus tard, les hypertextes avaient peu ou prou disparu, tout le monde faisait du web. Et essayait de refaire finalement des hypertextes, comme l'a montré Aurélien, à partir du web. Donc c'est-à-dire qu'il y avait encore du travail pour refaire ce qu'on faisait déjà avant, mais à partir d'une plateforme qui avait complètement changé et qui présentait elle-même des difficultés propres qui faisaient que ces tentatives avaient encore un sens et donc on donnait du travail aux chercheurs pour des décennies. Donc ça, c'est un point évidemment tout à fait important. Un informaticien célèbre également comme Alan Kay, par exemple, hein, qui est à l'origine de Smalltalk et de beaucoup d'inventions dans le domaine de l'informatique, autant des langages que des dispositifs. Un informaticien comme Alan Kay, par exemple, qui était intervenu par la suite dans une conférence World Wide Web, donc la grande conférence consacrée au web quelques années plus tard, lui aussi a jugé très durement le web en estimant que c'était un travail d'amateur, que c'était vraiment pas un travail très, très propre pour lequel il n'y avait pas un grand respect. On va voir si son jugement est ou non valide, peut-être en décalant justement le regard que l'on peut porter sur le web. Un aspect qui me semble intéressant également à rappeler, c'est le caractère de système d'édition qu'on a vu avec le web. C'est-à-dire qu'au départ, le web conserve au niveau des interfaces, et donc celle de son navigateur qui s'appelait World Wide Web tout attaché, conserve une capacité d'édition. On a vu qu'il y avait le bouton Edit hein, dans la slide qu'a montré Aurélien. Donc c'était un web en lecture, en écriture. Au départ, c'était un Read Write Web qui pouvait fonctionner parce qu'effectivement, il y avait très peu de personnes et qu'au départ, c'était un projet de recherche. Donc évidemment, s'ils sont des gens du CERN, on imagine qu'on peut leur donner les clés pour éditer d'autres contenus parce que ce sont quand même des experts. En tout cas, ils ont tous un but commun et un but partagé. Évidemment, à partir du moment où ça va s'ouvrir au grand public, cette fonction d'édition va très rapidement disparaître parce qu'elle devient impossible ou presque à gérer. Et d'ailleurs, vous avez un navigateur d'INRIA avec des fonctions d'édition qui est Amaya, qui est un navigateur historique, hein, qui est très ancien, mais qui déjà porte la marque de cette coupure entre l'aspect écriture et l'aspect lecture, plutôt, et l'aspect écriture au niveau du web, puisque les fonctions d'édition ne se font qu'en local. Vous récupérez une page HTML, par exemple, et vous pouvez l'éditer localement, mais évidemment, l'éditer localement ne revient pas à la publier ou à produire une édition qui va être ensuite prise en compte par un serveur. Pour qu'il y ait ces fonctions d'édition à distance qui soient prises en compte, il va falloir attendre le Web 2.0 et puis le développement notamment d'un certain nombre de technologies d'édition asynchrone qui vont permettre de remettre un petit peu d'édition, mais une édition qui va être centralisée par des plateformes qui sont souvent des plateformes propriétaires. Et donc, ce n'est pas au niveau même des standards du web qu'on va retrouver ces fonctions d'édition, mais on va les trouver finalement contrôlées par des éditeurs. Donc, on est dans un modèle tout à fait différent du modèle de travail intellectuel dont il a été fait mention tout à l'heure. La grande différence entre le web et les hypertextes également, c'est que les hypertextes qui existaient à l'époque, les hypertextes réels qui existaient à l'époque, n'étaient pas connectés à Internet. C'était des hypertextes qui pouvaient fonctionner notamment en multipliant les chemins de navigation. Et là, on est dans la délinéarisation du texte qui fait potentiellement référence à un certain nombre de penseurs post-structuralistes. Cette délinéarisation du texte pose la question de la navigation, des multiples chemins de navigation. On a des œuvres, des romans, de la poésie hypertextuelle qui a été produite à l'époque. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. On a des romanciers notamment qui se sont lancés dans l'expérimentation. Cette problématique, ce n'est pas tout à fait la problématique du web. Et surtout, elle suppose malgré tout, même si on peut avoir plusieurs chemins, qu'il y ait toujours quelque chose, quel que soit le chemin qu'on prenne. Ça veut dire que si j'ai un CD-ROM, je peux rentrer dans plusieurs chemins, mais le CD-ROM, il est figé et on ne va pas l'éditer, on ne va pas l'augmenter, on ne va pas le diminuer, il ne va pas changer pendant mon utilisation. Or, ce qui va se passer avec le web, c'est qu'on va avoir un système décentralisé où il n'y aura pas d'index géré par une autorité supérieure, une autorité centrale. Et donc, il va falloir penser à un système dans lequel n'importe qui peut ajouter des contenus, n'importe qui peut être producteur de contenus, mais ça veut dire aussi où un système où le maintien des contenus en question n'est pas du tout assuré. Sur un CD-ROM, forcément, le maintien des contenus est assuré, puisque ce n'est pas un système en écriture, mais en lecture. Sur le web, pour le transformer en un système en lecture, en écriture, il va falloir penser qu'on pourra éventuellement accéder à aucun contenu. Les contenus ne seront pas maintenus par ceux qui les ont publiés. Et ça, c'est la fameuse erreur 404 que vous connaissez toutes et tous. Hein. Cette erreur qui fait qu'on peut ne pas tomber sur un contenu. Et pourquoi est-ce qu'on ne tombe sur aucun contenu accessible ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autorité supérieure qui garantit l'accessibilité des contenus. C'est à chacun de garantir cette accessibilité. Donc ça veut dire que bien souvent, elle ne le sera pas et que la durée de vie des contenus sur le web est relativement courte. Mais loin d'être une erreur finalement en termes de design, c'est au contraire ce qui permet le passage d'hypertexte centralisé où la problématique essentiellement est celle de la navigation au web, où là, en se connectant à Internet, on essaye d'avoir une plateforme décentralisée où tout le monde peut publier des contenus, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autorité centralisée qui garantit l'accès aux dits contenus. C'est un élément en termes de design absolument fondamental. Bon, je passe sur pas mal d'éléments. Une dernière chose, simplement pour préciser également que les frontières du web ne sont pas non plus des frontières extrêmement nettes. On pourra en discuter assez longuement. Il y a cette tradition hypertextuelle vis-à-vis de laquelle on peut situer le web, mais qu'on pourra aussi situer le web par rapport à d'autres plateformes, systèmes d'information qui étaient ses concurrents à l'époque, n'a pas mentionné cette fois-ci Aurélien, mais qui font partie du paysage du web à ses débuts, des plateformes comme Waze, Gopher ou Prospero, qui étaient elles-mêmes connectées à Internet. Et finalement, le web a réussi, alors qu'au départ, elles étaient concurrentes et elles avaient autant d'atouts finalement que le web pour l'emporter. On n'est pas dans une histoire où, dès le début, le web s'impose. Alors, Tim Berners-Lee, évidemment, au début, cherche à imposer d'une certaine façon le web, mais ça produit des réactions hostile assez rapidement. Moi, je me penche un petit peu sur les archives et on voit des discussions enflammées très très tôt. Il a son style à lui, donc tout le monde n'aime pas forcément. Mais donc, la manière dont le web finalement s'est imposé, c'est, et je vais y revenir très largement dans la partie qui suit, en développant en fait un système de nommage qui est basé sur une syntaxe universelle. Syntaxe universelle qui permet en fait, qui rend ce système compatible avec des systèmes concurrents comme Waze, Gopher ou Prospero. C'est-à-dire que le système de nommage du web à base d'URI, donc ce qu'on appelle généralement des URL, mais qu'en fait dans les standards on appelle des URI, des identifiants, Uniform Resource Identifiers ou Universal Resource Identifiers si on veut être dans l'esprit du web. Ces identifiants universels, il en existe différents schèmes. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser avec le protocole du web, mais également avec d'autres protocoles ou même sans protocole, de manière un petit peu différente. Et on pouvait également très tôt les utiliser avec des protocoles comme Waze, Gopher ou Prospero. Et finalement, ces systèmes devenaient des systèmes avec lesquels le web pouvait se connecter. Et donc le web, un petit peu à l'image d'Internet, dont il est une couche applicative, devenait lui-même une fédération de réseaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des URI pour le réseau des mails, on peut avoir des URI pour Prospero, des URI pour Gopher ou des URI HTTP pour les contenus qui sont spécifiquement sur le web. Donc lui-même avait des frontières mouvantes qui ont permis d'intégrer d'autres systèmes. C'est un point qui me semble tout à fait important. Alors, pourquoi est-ce que, au plan philosophique, moi qui suis philosophe, je me suis intéressé spécifiquement au web. Pour une raison qui nous fait effectivement sortir un petit peu de cette question de l'hypertexte et aller beaucoup plus du côté de questions que les philosophes traitent généralement, à la fois sous l'angle de la philosophie du langage et sous l'angle également de la métaphysique ou de l'ontologie plus spécifiquement. On pourrait dire du web, et je reprends là une expression, si on se penche sur son architecture, hein, l'intervention avait pour but vraiment de se pencher sur son architecture. On pourrait dire du web, en reprenant l'expression d'un sociologue, Fabien Muniesa, sociologue au Centre de sociologie de l'innovation à l'École des Mines, enfin Mines Paris Tech maintenant, que le web est un dispositif matériel de désignation. Il utilise, lui, cette expression pour parler de la bourse, Mais on pourrait tout à fait envisager que le web est un dispositif matériel de désignation ou de référence. La question centrale que va poser le web, c'est la question de la référence. La référence au sens où on a, en philosophie du langage par exemple, un nom propre qui va faire référence à un objet, et on se pose la question de savoir quel est le statut de cet objet. Finalement, ça c'est la question ontologique par excellence. La question de l'ontologie, c'est qu'est-ce qu'un objet? Quel est le statut d'un objet ou des objets? Est-ce qu'il y a des objets différents? Est-ce qu'on peut faire une science de l'objet? Etc. Et la question de la philosophie du langage, que privilégie la philosophie du langage, c'est cette question-là. À partir du moment où on a des noms propres, on a comment font-ils référence? Alors, ce qui est une question problématique du point de vue linguistique et que les linguistes n'aiment pas, parce qu'en fait, dans le langage ordinaire, il n'y a pas vraiment de nom propre tel que les imaginent les philosophes. Donc les linguistes détestent en général, de ce point de vue-là, la philosophie du langage. L'intérêt d'un système comme le web, c'est que lui, il propose un système de nommage à base de noms propres qui ressemble, par bien des aspects, même si les réponses apportées sont un petit peu différentes, par bien des aspects donc aux noms propres qu'imaginent les philosophes. Sauf qu'il opérationnalise évidemment ces noms propres à l'intérieur d'un système qui est doté d'une architecture spécifique et qui va finalement nous permettre de reposer différemment la question de la référence et la question du nommage. Et également de poser de manière différente la question du statut des objets, ce que sur le web, vous allez le voir, on appelle donc des ressources. On peut opérer un contraste entre Internet qui est basé sur le protocole, comme vous savez, TCP/IP, qui est un système basé sur le transport. Donc le transport par paquet de données sont des choses que l'on connaît. HTTP et le web, par contre, c'est un protocole qui est basé sur l'idée de transfert. On va voir que la notion de transfert est relativement différente de la notion de transport, et je vais essayer de l'éclairer rapidement. Alors, je m'appuie ici sur l'architecture du web que j'ai largement étudiée dans ma thèse et qui elle-même a été sujet de très nombreux débats au sein notamment du W3C, donc le World Wide Web Consortium, l'organisme qui, au sein duquel s'écrivent les standards directement consacrés au web, et les questions qui se sont posées pour comprendre finalement le statut architectural du web et les propriétés de l'architecture du web ont été extrêmement nombreuses, donc n'ont pas du tout été le fruit d'un consensus, hein, mais de discussions philosophiques au sein notamment de certains groupes, comme le groupe d'architecture technique du web, le TAG, Technical Architecture Group, qui regroupe les architectes qui sont élus pour que finalement les propriétés du web ne disparaissent pas et que le web, en changeant un petit peu ses standards, ne se casse pas, qu'il ne fonctionne plus. Eh bien, ce groupe a très largement développer une réflexion philosophique autour de ces questions. Une question qu'on peut se poser lorsqu'on parle du web, finalement la question de la référence, c'est à quoi est-ce qu'il est fait référence sur le web ? Est-ce que ce sont des documents ? Est-ce que ce sont des fichiers ? Est-ce que ce sont... À quoi est-ce que finalement il est fait référence ? Si on a un système de noms propres, donc des URI, à quoi est-ce que ces noms propres renvoient ? L'idée que ce serait par exemple des documents est tout à fait problématique dans la mesure où la notion de, même si la notion de page le laisse à croire, dans la mesure où la page elle-même est un document tout à fait particulier. La page, c'est un document papier, document où le support de lecture et le support d'écriture sont le même, le support de conservation et le support de lecture sont le même. Or, on a des documents où, au contraire, les deux vont être découplés. Alors, Bruno Bachimon s'est beaucoup intéressé à ces questions. C'est le cas, par exemple, du document audiovisuel qui demande un support technique pour pouvoir lire, décoder le support d'enregistrement afin qu'on puisse l'appréhender sous une forme sémiotiquement accessible à un être humain. Par exemple, la cassette vidéo nécessite un lecteur de cassette vidéo pour qu'ensuite on puisse, à l'aide d'une télévision, recevoir le contenu. Le document numérique, c'est pareil. Lui-même, il nécessite énormément de médiateurs pour qu'on puisse le reconstruire. On peut le reconstruire de manière plurielle, ce qui était déjà le cas du document audiovisuel, mais pas tellement dans les usages. Avec le web, on va parler encore, on va se situer à un niveau plus abstrait, finalement, qui va être le niveau de la ressource, qui n'est plus, pourrait-on dire, un document. Autant le web n'est pas un hypertexte, autant la ressource n'est pas non plus un document. Et finalement, cette rupture avec l'hypertexte, elle passe aussi par une rupture documentaire qui est, qu'il faut prendre en ligne de compte. Si je prends un exemple très simple, qui va être la page d'accueil du Monde, alors qui est l'exemple canonique que je prends maintenant depuis quelques années. La page d'accueil du Monde, ça va être ce qui va être identifié par une URI. Mais la page d'accueil du Monde, vous l'imaginez bien, elle change dans le temps. Si vous prenez par exemple la Wayback Machine de Internet Archive, vous avez des enregistrements à différents moments de la page d'accueil du Monde. Et vous voyez bien que c'est toujours la page d'accueil du Monde, mais avec un contenu qui change. Alors, cette perspective-là, en fait, elle n'est pas du tout nouvelle, puisque dès les débuts du web, on n'imaginait pas du tout des pages statiques, hein, une page HTML sur un serveur, et puis on y accède, elle ne change pas, et on imagine que c'est le modèle du web. Si on pose la question, on va se dire, oui, effectivement, le web, c'est ça, ce sont des pages sur des serveurs auxquels on accède via un navigateur, le navigateur va les chercher, on les décode, et ensuite on peut les lire. Mais en réalité, dès les débuts du web, on n'imaginait pas les choses ainsi, puisque parmi les objets, les ressources qui étaient possibles d'identifier, on imaginait des services. Par exemple, j'accède à un moteur de recherche ou j'accède à un résultat d'un moteur de recherche doté d'une URI, d'un identifiant. Évidemment, au fur et à mesure que le temps passe, les résultats vont changer pour une même requête. Donc les services eux-mêmes sont tout à fait liés à cette idée qu'on a quelque chose de stable et en même temps qu'il y a des contenus qui changent sans arrêt. Donc c'est ce que moi j'ai appelé des variations synchronique et variation dans le temps des contenus, et qui sont d'autant plus des variations dans le temps qu'aujourd'hui, par exemple, on peut dire avec la personnalisation et avec le fait qu'en réalité les pages ne sont plus tellement des pages HTML, mais en fait sont des agrégats de contenus qui vont chercher des informations à droite et à gauche, des flux RSS, des dépêches, tout un tas de choses, qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la même page web. Pour parler comme un philosophe connu, on n'accède jamais véritablement deux fois à la même page web, et parfois le simple fait d'accéder à une page va la modifier. Si vous allez sur IMDb, le fait d'accéder à une page sur IMDb va augmenter la popularité de cette page, donc va la situer ailleurs dans l'échelle des pages auxquelles on accède. Et donc l'activité même, ce qu'on appelle donc de déréférencer une URI, de générer un contenu en lien avec cet acte de déférencement ou déférenciation, va modifier le contenu même de la page. Ça encore, ça existe depuis les débuts du web avec les compteurs qu'on mettait dans les pages, où à chaque fois qu'on accédait à une page, on voyait qu'on était le temps unième visiteur. Donc la page, effectivement, il n'y avait jamais deux fois la même page, puisque le compteur donnait une information à minima qui était différente. Autre point qui est un point essentiel de l'architecture du web, ce sont les variations qu'on pourrait appeler par opposition aux variations diachroniques, des variations synchroniques, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on accède à une page, on n'accède pas forcément à une page donnée sous un format donné, donc qui serait stocké au fond d'un coffre-fort qui serait le serveur, et puis il faudrait accéder à ce Saint Graal à chaque fois. En réalité, on accède à des contenus que l'on peut adapter aux utilisateurs. On peut adapter aux utilisateurs en utilisant notamment les standards, et dès les débuts du web, on a une fonctionnalité qui a été imaginée en lien avec un système qui s'appelait Système 33, qui est très très peu connu, mais ça vient un petit peu de là, qui est la négociation de contenu. La négociation de contenu, c'est quoi ? Donc, c'est un élément du protocole HTTP qui veut que lorsque j'accède à, non pas une page, mais un contenu sur le web, selon ce que je vais demander, selon ce que mon navigateur va demander, donc va spécifier en termes de préférence, en termes de langage, en termes de format ou autre, eh bien, si l'éditeur, le publisher d'un contenu sur le web a spécifié plusieurs états disons qu'il a une page sous plusieurs formats ou une page en plusieurs langues, je n'utiliserai plus le terme page par la suite, eh bien, je vais avoir accès, selon mes préférences, à cette page dans des langues ou dans des formats différents. Donc, elle va s'adapter à mes besoins. Elle ne va pas s'adapter on the fly, elle ne va pas s'adapter à la volée à ce dont j'ai besoin, mais il y a cette notion déjà qu'il faut découpler un contenu qui serait la page en fait de ces multiples aspects. En fait, on n'a pas accès à un contenu, on a accès potentiellement à de multiples contenus sous de multiples formats. Donc, il n'y a jamais cette idée d'unicité de ce à quoi il est fait référence. Donc, on va devoir, pour comprendre ce à quoi une URI renvoie, on va devoir se situer à un niveau d'abstraction plus important, qui va être un niveau d'abstraction temporel, c'est-à-dire ce n'est pas la page d'accueil du monde maintenant, mais c'est la page d'accueil du monde en général. D'accord ? De la même manière, si je serre la main à Aurélien maintenant, je ne serre pas la main à Aurélien depuis sa naissance à sa mort, mais à une tranche d'Aurélien. Ben, c'est un petit peu la même chose ici, je n'ai jamais accès à l'intégralité de la page d'accueil du monde. Mais on pourrait considérer que c'est une thèse finalement liée essentiellement au numérique. On peut considérer en revanche aussi que c'est une thèse qui est liée à une manière d'appréhender les objets qui est liée au fait même d'être un objet, qui fait qu'on ne cerne, on n'accède jamais, on ne cerne jamais un objet dans sa plénitude et dans son intégralité. J'y reviendrai dans quelques instants. Évidemment, cette idée de négociation de contenu dont j'ai parlé tout à l'heure, elle exige elle-même également que l'on se situe à un niveau d'abstraction supplémentaire et qu'on ne puisse pas considérer que telle itération, telle page web, c'est ce à quoi je peux accéder dans son intégralité, puisque ce à quoi je peux accéder va potentiellement prendre des formes multiples à chaque fois que j'y accède. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au-delà même de la négociation de contenu, la personnalisation des contenus sur le web tient à une même logique finalement où je vais accéder à des contenus qui vont en fait s'adapter à mes besoins, mais en même temps il y a une unicité de ce à quoi j'accède. Donc si j'accède à la page d'accueil du monde sur mon mobile ou sur mon ordinateur, je vais accéder à des contenus différents, mais ce sera toujours la page d'accueil du monde. Donc il faut pluraliser en fait l'accès qu'on peut avoir aux objets, mais ça reste quand même à chaque fois le même objet. Cette dialectique entre l'un et le multiple, finalement, qui est tout à fait essentielle sur le web. D'ailleurs, Tim Berners-Lee lui-même, en parlant de l'idée, finalement, de ressources qui va permettre qui sont les objets donc, du web, qui vont permettre de ne plus parler de pages, mais d'autres choses, a exprimé le fait qu'une ressource était un petit peu comme une idée platonicienne. Pour lui, c'est un peu comme une idée platonicienne. Et puis ensuite, on a de multiples instanciations. Alors, ce n'est pas cette idée, en fait, d'idée platonicienne qui, au niveau de l'architecture du web, prévaut, mais c'est une autre idée qui a été développée, en fait, par Roy Fielding, qui est un personnage extrêmement important du web, et qui est un petit peu le saint Paul du web. Vous savez, le vrai fondateur de la religion chrétienne, ce n'est pas Jésus, c'est saint Paul. Jésus n'était pas chrétien. Je laisse y réfléchir. Là, c'est un petit peu pareil. Alors, je n'irai peut-être pas aussi loin, parce que Tim Berners-Lee a quand même, au départ, c'est une histoire qui mérite très rapidement d'être racontée, il a inventé à la fois le premier navigateur du web, le langage HTML qui était très simple au départ, premier serveur web, et puis le protocole permettant d'échanger entre tous ces éléments qui est le protocole HTTP. Donc il a établi un certain nombre de choses du web, de ce qui allait devenir ensuite le web moderne, même si évidemment au départ c'était sous forme un petit peu de prototypes qui ensuite se sont répandus comme des prototypes, puis les gens ont essayé d'en faire à leur tour et sont venus ensuite dans cette histoire, les premiers développements commerciaux sont intervenus, notamment avec les fabricants de navigateurs. Cette question des fabricants de navigateurs n'est pas du tout accessoire, puisque à cette époque, le web n'avait pas d'autre existence que dans des dispositifs techniques. Et donc, les fabricants de navigateurs, par exemple, ont modifié, par exemple, le langage HTML pour qu'on puisse y inclure des images. C'est le cas de Marc Andreessen, hein, qui avait fait Mosaic et par la suite devenu Netscape. Et donc, on voit que des gens qui avaient un projet à la fois de recherche mais aussi commercial pouvaient introduire des innovations au cœur du web, comme ça, extrêmement rapidement, qui ont changé évidemment la face du web. Mettre des photos ou de la vidéo. La réaction de Tim Berners-Lee, d'ailleurs, c'était « Mais vous êtes fous, les gens vont mettre des photos de femmes nues. » Il avait raison. Et donc, on sortait d'un web qui était un web entre académiques, entre chercheurs à l'intérieur du CERN pour un web évidemment beaucoup plus populaire, avec d'autres acteurs qui pouvaient évidemment le modifier dans ce sens. Alors ce qui s'est passé entre 1994 et 1995, enfin fin 1994, c'est que le web a changé finalement de forme puisque Tim Berners-Lee a créé le W3C, donc l'organisme qui est chargé de publier et d'éditer la majorité des standards du web. Cette création du W3C a eu pour conséquence finalement de produire ce qu'on appelle des investissements de forme, c'est une expression qui vient de sociologue Laurent Thévenot, des investissements de forme, c'est-à-dire les standards, des investissements dans les standards qui visent à donner plus de généralité et de robustesse à un dispositif technique. C'est-à-dire que le web n'existait plus dans des dispositifs localisés, mais il existait au niveau des standards. On pouvait fixer son existence ailleurs, et donc ensuite les standards devenaient la norme à respecter. Ce qui change évidemment les choses du tout au tout. Suite à cela, s'est opérée une première vague de standardisation. On a standardisé les standards fondamentaux du web, donc de son architecture, c'est-à-dire notamment le protocole HTTP, les URI, donc les identifiants du web, entre autres choses, mais voilà. Alors, je dis les URI, en fait, au départ on parlait d'UDI, on a parlé ensuite d'URI, ensuite l'acronyme URI a changé parce que à l'IETF, quand on parlait d'identifiant universel, alors que le web n'était qu'un dispositif parmi d'autres, ça passait assez mal. Et au moment de cette standardisation, on a cassé les URI en deux. C'est une histoire que je ne vais pas raconter ici, mais qui est extrêmement intéressante pour mon propos, entre des URN et des URL. On a recassé tout ça, on a refusionné URL et URN ensuite en 1998, je crois. Ce qui veut dire qu'on a parlé d'URL dans les standards que pendant à peu près 2 ans et demi. Évidemment, c'est cet acronyme qui est resté ensuite, l'idée étant qu'on avait des adresses. Alors, en fait, ce ne sont pas des adresses, pour la raison que je vais mentionner ici, j'ai déjà commencé à en parler très largement, et ce qui s'est passé, c'est que à partir de 1995, Tim Berners-Lee a dit à quelqu'un qui s'appelle Roy Thomas Fielding, que le web avait des propriétés intéressantes, et qu'il faudrait essayer de les comprendre. Les propriétés en termes de design intéressantes, qu'il faudrait essayer de les comprendre. Ce qui veut dire aussi que, comme souvent, on est un peu à la remorque de nos créations, à la remorque de nos artefacts, et on essaie de comprendre après coup ce que l'on a fait. Donc il y a une première étape de standardisation, qui a moyennement fonctionné, puisqu'on est revenu dessus très vite, qui était elle-même l'expression du fait qu'on essayait de comprendre les fondamentaux du web. Alors, plus du tout en termes d'hypertexte, comme on l'a vu, mais en essayant de comprendre notamment le statut des identifiants du web, qui n'avaient pas d'accord là-dessus. Et donc, en 1995, déjà, avant même cette phase, mais même consécutivement, on va dire, parallèlement, donc Berners-Lee a chargé Fielding de fournir un modèle du web. Ce qu'a fait Fielding, c'est qu'il a écrit sa thèse entre 1995 et 2000, consacré au style d'architecture du web, qui est le style d'architecture REST. Vous avez peut-être entendu parler de REST, parce qu'on parle beaucoup depuis quelques années maintenant, de REST comme étant une méthode pour fabriquer des web services, grosso modo. C'est ce qu'on appelle les approches RESTful. Mais REST, en fait, ça c'est pas du tout le canon de REST, c'est ce qui a été écrit à partir de REST. Là, on est dans une histoire qui est presque une histoire religieuse, c'est-à-dire d'herméneutique. On a un canon qui part de la thèse de Roy Fielding, qu'il a publié en ligne dans les années 2000. Il a écrit sa thèse, qui doit faire à peu près 200 pages, et puis il a écrit quelques articles autour de REST, et ensuite quelques posts de blog, mais c'est tout. Donc on a un corpus très très réduit, assez hermétique, assez difficile d'accès, parce qu'avec des éléments quasi philosophiques parfois, enfin, et une architecture très, très particulière. Et ensuite, donc, des ouvrages ont essayé de populariser cette approche, et ce sont les ouvrages qui portent sur les approches RESTful. Mais le rôle de REST a été assez différent, et le rôle de Fielding aussi, puisque finalement, il a essayé de comprendre les fondamentaux du web, et de réorienter à partir du web, à partir des standards existants, mais en essayant d'aller plus loin que les standards existants. Donc, c'est-à-dire qu'il explique, hein, il est parti par exemple du protocole HTTP pour essayer de le comprendre, pour essayer d'en extraire la substantifique moelle, et à partir du moment où il a commencé à l'extraire, ce qu'il a extrait a commencé à s'autonomiser, et ensuite à devenir finalement le véritable web. Et ensuite, il a jugé que le protocole HTTP devait être jugé par rapport à cette norme qu'il imposait et que le protocole HTTP n'était pas, finalement, ne respectait pas complètement l'esprit du web. Donc on part de cette réalité, on en extrait une norme et on juge la réalité à l'aune de cette norme. Et finalement, cette réalité elle-même doit être ensuite révisée pour correspondre à la norme. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais... Alors quand on lui a posé la question, on lui a dit « Mais alors qu'est-ce qui était en premier, le protocole HTTP ou REST ?» Il a dit « Ni l'un ni l'autre, ce n'est pas une histoire de la poule ou l'œuf ou la poule, c'est que l'un s'est transformé en l'autre. C'est une histoire de « chicken to dinosaur ». Donc comment... « Dinosaur to chicken », comment les dinosaures sont devenus des poulets ? Graduellement. Mais là, c'est pareil. Entre REST et le web, il y a eu une adaptation progressive qui est tout à fait... On a mis, en fait, c'est une expression que j'aime bien. Enfin, elle est de moi, mais je l'aime bien. Ça arrive. Hein. On a mis le web en accord avec lui-même. Et au cœur donc, de REST, il y a cette question qu'il aborde des URI. Alors, pour finir cette petite historique, avant de préciser un petit peu les choses là-dessus, Fielding donc, est l'auteur du style global qui permet de repenser le web. C'est à partir de ce style global que la seconde vague de standardisation a été effectuée. Donc, il a été l'éditeur ensuite du standard HTTP pendant qu'il travaillait sur REST, donc il a évidemment tenu compte de sa réflexion, l'éditeur principal du standard HTTP, l'éditeur également principal du standard concernant les URI, donc HTTP 97, la nouvelle version, 98 pour les URI, ensuite 2005, je crois. Et en même temps, il était le fondateur de la fondation Apache, qui s'occupait des serveurs web. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui concentrait, en tout cas, a permis de mettre en cohérence à la fois les serveurs web, quand même un élément important, le protocole HTTP qui permet la communication entre tous les éléments sur le web, les URI qui sont le standard fondamental du web et le style global de l'architecture du web. Donc quand je parle de mise en accord du web avec lui-même et de mise en conformité finalement du web avec lui-même, on voit qu'il a pu jouer un rôle tout à fait essentiel. Alors, je ne vais pas développer ici l'approche complète de REST, je n'ai pas le temps et ce n'est pas le but, mais on trouve dans sa thèse, mais dans un article qu'il a rédigé avec son directeur de thèse en 2000 pour synthétiser en fait les résultats de sa thèse, enfin un article de 40-50 pages, donc assez roboratif quand même, on trouve cette idée selon laquelle, on trouve un paragraphe plutôt, qui s'intitule « Manipuler des ombres ». Et c'est dans ce paragraphe qu'on peut comprendre finalement le truc qui permet de comprendre le fonctionnement du web au niveau architectural. Fielding explique dans ce paragraphe en fait, le paradoxe un petit peu du web. Hein, c'est un paradoxe auquel a finalement fait allusion Aurélien tout à l'heure, qui est qu'on ne sait pas bien ce qu'il y a sur le web, pourquoi on ne peut pas faire des liens bidirectionnels, et finalement pourquoi le web n'est pas simplement un hypertexte dégradé, mais voilà, comment est-ce qu'il fonctionne. Si c'était un hypertexte, finalement il lirait ce qu'on appelle des lexis, c'est-à-dire des lexis sont des pages, hein, dans le langage hypertextuel, on aurait des pages avec des liens. Oui. Mais ce que suppose le fait de relier deux pages ensemble, c'est qu'on a deux pages et on sait qu'elles sont quelque part, donc on peut les relier finalement, et on a des liens bidirectionnels entre les deux, donc on a des liens qui sont attachés à des éléments concrets, des pages. Donc des pages, ce sont des éléments concrets. Or, sur le web, on n'a pas affaire à des éléments concrets, on a affaire, en fait, si on ouvre le capot et qu'on cherche à regarder ce qu'il y a, on ne va pas trouver des fichiers, parce qu'on a une pluralité de fichiers, donc le fichier n'est pas l'unité qui va être identifiée par une URI. On n'a pas des documents, j'ai dit, même raison, pas des documents. Mais alors, qu'est-ce qu'on a ? La réponse de Fielding à cette question, c'est là où la réflexion sur le web atteint une dimension philosophique, c'est qu'on a des ombres. C'est sa réponse à lui, sa réponse d'ingénieur architecte du web, c'est qu'au cœur du web, on a quoi ? On a des ombres. Et le paragraphe 7.1 de son article s'intitule « Manipuler des ombres ». Ce n'est pas de moi, hein, ce n'est pas un regard de philosophe sur l'architecture du web, hein, c'est ce qui est au cœur de l'architecture du web. Alors que, évidemment, il n'y a pas forcément de culture du web, donc on ne le sait pas nécessairement, mais c'est présent. L'argumentaire de Fielding est le suivant, c'est que, et c'est le paradoxe, mais alors, si ce sont des ombres, pourquoi ? Parce qu'il faut bien passer à un niveau d'abstraction supérieur pour unifier tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les différentes représentations dans le temps ou les différentes représentations à un moment donné en vertu de la négociation de contenu ou de la personnalisation des contenus aujourd'hui. Donc, quelque chose qui en fait va être abstrait et donc inaccessible en tant que tel. Ce à quoi on fait référence, c'est la page d'accueil du monde, mais la page d'accueil du monde, c'est quelque chose d'abstrait, d'inaccessible en tant que tel. C'est même pas, comme dans un langage informatique, une adresse mémoire, quelque chose qui... on a une classe et puis... Non, il n'y a même pas une adresse mémoire quelque part. Il n'y a rien. C'est une ombre. C'est une ombre autour de laquelle on va coordonner beaucoup de choses, beaucoup de contenus, beaucoup de dispositifs matériels. Et la réponse de Fielding est donc la suivante, c'est le paradoxe mis en avant. Mais alors, dans ce cas-là, comme l'intérêt quand même d'un système hypertextuel, c'est d'accéder à un contenu. Or, si j'ai affaire à une ombre, comment est-ce que je vais solliciter cette ombre pour accéder à un contenu ? Et sa réponse est la suivante, c'est que, en fait, cette ombre, elle est manipulée via ses représentations. Donc, elle est toujours manipulée indirectement. Ce qu'on appelle des représentations au sens du protocole HTTP, c'est ce qu'on appelle généralement des pages web, mais qui n'ont donc pas le statut de page, c'est-à-dire les contenus auxquels on va pouvoir accéder et qui sont associés à cette ressource. Ce qu'on appelle donc la ressource, c'est l'ombre qui se trouve sur le web. Hein, ce à quoi il est fait référence une URI, c'est une ressource, la page d'accueil du monde. Ce à quoi l'on accède, ce sont les multiples représentations de cette page qui peuvent emprunter des formes extrêmement différentes, à la fois dans le temps et en même temps en termes de différence de contenu, de format, de langue, etc. etc. Et donc la réponse est celle-là, c'est on manipule cette ombre, qui n'est pas directement manipulable par des moyens informatiques, via ces multiples représentations, via ce à quoi on va accéder. Mais dans une optique où finalement les représentations elles-mêmes sont coordonnées par l'ombre en question. On pourrait comprendre, si vous voulez, le rapport entre la ressource et ses représentations, en faisant appel, moi ce que j'avais fait dans mon travail de thèse, à un travail philosophique qui avait été mené par Pierre Livet et Frédéric Neff sur les êtres sociaux, qui essayait d'expliquer un petit peu le poids du virtuel, l'opposition entre actuel et virtuel. Et là, l'intéressant, c'est que dans cette perspective, il est rapporté au web, on voit que le web, c'est du numérique, donc de l'actuel, pas du tout du virtuel, et qu'à côté, on peut avoir cette notion de virtualité qui va avoir son importance. Pourquoi elle a son importance ? Dans la mesure où, lorsque je dis ceci, alors je ne le déclare pas forcément, mais on le comprend, je dis ceci est la page d'accueil du monde, je m'engage, en fait, à donner accès à des contenus qui peuvent passer pour la page d'accueil du monde. Donc il y a un engagement dans le temps par rapport à des contenus qui est pris vis-à-vis des internautes, et ensuite, une sorte de promesse, si on veut, on s'attend à ce que cet engagement soit validé, et lorsqu'on accède à la page d'accueil du monde, à ne pas accéder à des contenus totalement différents. L'idée dans la théorie de l'IVNF, c'est de dire que précisément, une promesse, c'est quelque chose qui pèse du poids du virtuel sur l'actuel. On fait une promesse, on s'engage à faire quelque chose, et lorsque l'action qui est accomplie n'est pas n'importe quelle action, elle est une action qui vient satisfaire la promesse. Donc elle est qualifiée par le poids du virtuel. Bien là, de la même manière, les représentations de la page d'accueil du monde sont qualifiées par le fait qu'on a voulu donner accès à une ressource, qu'on a promis de donner accès finalement à une ressource en particulier. Donc on a un élément virtuel qui va qualifier des éléments actuels qui sont les représentations au sens du protocole HTTP. Donc ça c'est un point tout à fait important, et on peut dire d'une certaine manière qu'on peut penser le web au niveau de son architecture comme étant un système de nommage extrêmement important qui identifie des ressources multiples, qui peuvent être n'importe quoi. Donc il n'y a pas de distinction ici entre accessible et inaccessible. Je peux identifier Tim Berners-Lee, donner accès à des contenus qui parlent de Tim Berners-Lee, des images de Tim Berners-Lee ou autre chose. Donc il n'y a pas de distinction ici entre sur le web ou hors du web. Je peux identifier à l'aide de ce système de nommage n'importe quel type d'objet, et je vais donner ensuite accès à des contenus concernant ces objets qui vont non pas instancier les objets, il ne s'agit pas d'instancier Tim Berners-Lee, il s'agit de décrire ou de nourrir finalement les objets en question. Donc tout le défi finalement du web en tant que tel, architecturalement, ce n'est pas de penser des liens bidirectionnels, il n'y a pas de lien en fait sur le web. Au niveau architectural, il n'y a pas de lien. Un lien hypertexte n'est pas un lien. Un lien hypertexte contient une URI qui elle-même est un pointeur. et un pointeur qui peut pointer vers rien du tout d'accessible. Elle pointe, éventuellement il y a un contenu accessible, mais ce n'est pas une obligation, parce que justement, on l'a vu tout à l'heure, c'est un système décentralisé. Donc, au lieu d'avoir une architecture basée sur le lien, on a une architecture basée sur les pointeurs, qu'on va appeler des liens avec des problèmes que ça pose. Si vous prenez un lien hypertexte, un lien dans une page, en fait, un lien dans une page, c'est l'URI d'une ressource qui pointe éventuellement vers la représentation d'une autre ressource. Mais peut-être qu'elle ne fait que pointer, qu'il n'y aura pas rien du tout d'accessible. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'autorité, encore une fois, qui vient garantir que tous les éléments sont bien présents. Donc on est dans cette perspective-là. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore...
Deux minutes.
Bon. Alors, je vais être rapide là-dessus. Alors, je vais juste indiquer des pistes parce que je n'aurai pas le temps de traiter ici, mais on pourra les reprendre au moment des questions. Donc, il faut imaginer que le web, au niveau architectural, donc c'est des objets qu'on veut identifier. Le web sémantique, finalement, va s'appuyer sur cette idée dans la mesure où on va se dire il y a deux éléments. Finalement, au niveau du web, la liberté de désigner ce que l'on veut. D'accord ? À l'aide de ce système de nommage, on peut désigner n'importe quel type d'objet. Alors ensuite, la responsabilité de celui qui établit, qui pose des URI et qui désigne des ressources, c'est de donner accès à des contenus qui en parlent correctement. Donc ça, c'est la question qui se pose et qui n'est pas du tout une question légère. Et là, ce que va ajouter le web sémantique, finalement, c'est la liberté de connecter toutes ces ressources les unes aux autres. Pour dire, par exemple, j'ai une ressource qui est Tim Berners-Lee, j'ai une ressource qui est une relation Tim Berners-Lee fondateur de W3C, fondateur de, et j'ai une ressource qui est W3C. Je vais connecter en fait les URI qui désignent ces différentes ressources et, grosso modo, ça va être la brique de base du web sémantique. Donc, vraiment, on passe de l'idée qu'on peut, n'importe qui peut désigner n'importe quoi, d'accord, mais libre ensuite, enfin, c'est la responsabilité ensuite de chacun de donner accès à des contenus pertinents, ils le seront plus ou moins, à une autre liberté, n'importe qui peut dire n'importe quoi à propos de n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe qui peut connecter ces différentes ressources les unes aux autres comme il le souhaite, mais là encore, il y a une question de confiance, et tout le monde ne les connectera pas comme il le faut ou ne choisira pas les bonnes ressources, etc. etc. Par rapport à ça, évidemment, ce que le web 2.0 finalement a apporté, notamment avec le tagging ou les taxonomies, c'est le fait d'utiliser des littéraux, donc des chaînes de caractères, pour associer ensemble des ressources ou ce à quoi on avait accès, c'est-à-dire des représentations de ressources, et permettre de les colliger différemment, donc de réorganiser, recatégoriser, même si ce n'était pas forcément avec des catégories, mais avec des chaînes de caractères qui pouvaient évoquer, par exemple, des actions à accomplir, à lire, à faire, etc., etc., de donner comme ça, de réorganiser un petit peu les contenus du web à l'aide, justement, de littéraux. Et ce qu'a fait, en revanche, Google, finalement, c'est, alors, Aurélien l'a présenté, hein, dans un index, en transformant les représentations en pages canoniques, c'est-à-dire en déréférençant une URI pour en tirer une représentation qui va être traitée comme une page, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne change pas. Alors qu'évidemment, le web est vivant, les pages changent, leurs contenus sont multiples, mais Google a besoin de stabiliser ça dans son index, pour ensuite calculer les liens entrants, liens sortants, et permettre de répondre à des requêtes sur cet index, plus, encore une fois, que sur le web vivant en lui-même. Et donc, de ce fait, en reproduisant en partie les fonctionnalités d'un hypertexte. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a des évolutions qui sont liées à la fois du côté des architectes à une réflexion sur les grands types du web, donc URI, ressources, représentations HTTP, etc. Donc comment on passe comment on arrive à ces éléments ontologiques fondamentaux, finalement. Au web 2.0, où on va introduire des littéraux qui vont permettre de réorganiser un petit peu ces représentations les unes par rapport aux autres, jusqu'à Google, qui, pour le coup, va canoniser les pages et surtout permettre de construire à partir de ce qui n'était au départ, d'un point de vue architectural, que des noms propres désignant des ressources, un réseau. Donc c'est Google qui va permettre de construire un réseau à travers une mesure du réseau qui n'a cessé d'évoluer d'ailleurs depuis la thèse de Larry Page, qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui était proposé au départ et qui elle-même était une reprise d'un certain nombre de travaux en bibliométrie, en scientométrie. Donc on n'a pas construit une géographie du web, on n'a pas construit une cartographie du web, on a construit une réticularisation du web à travers la mesure qui en a été proposée, qui a évidemment performé cette mise en réseau qui aujourd'hui, qu'on peut évidemment aujourd'hui encore interroger dans la mesure où au plan architectural ne va pas du tout de soi. Alors, dernier élément peut-être pour la discussion, peut-être plus de manière spéculative, ça fait partie aujourd'hui de ce sur quoi je travaille, mais on pourra y revenir, c'est la question du rapport finalement du web à son infrastructure qui est Internet. Le web peut être vu comme quelque chose d'assez abstrait. Il y a des ombres au cœur du web, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais c'est ce qui permet justement son fonctionnement et la coordination entre ces ombres et les contenus qui sont accessibles, qui est évidemment fondamental, un pôle de stabilité puis un pôle plus changeant. L'infrastructure, comme pour toute infrastructure numérique, ça pose un certain nombre de questions. On a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui s'intéressent notamment à l'impact environnemental des infrastructures numériques. Ce que le numérique produit beaucoup, ce sont des déchets, en grande partie. Et on a des gens aujourd'hui qui s'intéressent notamment dans des continents comme l'Afrique, par exemple, dans ce travail de Christophe Guéret de son équipe, que connaît également Aurélien, à comment faire du web sans Internet. Comment faire du web lorsqu'on n'a pas accès à l'infrastructure, lorsqu'on n'a pas accès à Internet, avec des systèmes qui peuvent être, on relaie des informations issues de la radio, on a des accès en cache, on a différents accès, on peut essayer d'organiser les choses avec d'autres infrastructures. Pour dire que finalement le web dépend aujourd'hui d'Internet dans son fonctionnement, mais on pourrait imaginer d'autres infrastructures que l'infrastructure d'Internet telle qu'elle existe aujourd'hui, et donc d'autres développements du web à l'avenir. Il y a plusieurs développements, hein. Vous savez qu'on peut imaginer Internet des objets, web des objets, et puis que tout objet soit aujourd'hui connecté, mais dans les grands récits qui existent aujourd'hui, il y en a deux, grosso modo. Il y a un grand récit numérique, tout va être numérisé, et puis il y aura l'informatique partout, Internet des objets, la Smart City, etc. Et puis l'autre récit, c'est le récit alors qui pour le coup est moins l'objet de marketing, mais un récit scientifique sur le changement climatique et l'effondrement climatique, qui ne pointe pas tout à fait dans la même direction. Et donc s'il y a encore des gens en 2100, ce sera une chance. Donc voilà, entre le fondateur de Tesla qui annonce qu'on va tous aller sur Mars, etc., etc., et puis la réalité qui annonce qu'il y aura 800 millions de réfugiés climatiques dans quelques années. Donc deux éléments assez différents, qui fait que moi-même je m'intéresse aujourd'hui beaucoup à la transition que l'on peut imaginer avec le web, comment finalement prendre ces exemples qui sont développés en Afrique comme des exemples d'une très grande pertinence et d'une très grande invention technique. L'invention technique, ce n'est pas toujours plus de numérique, mais parfois moins de numérique et mieux, surtout. Et finalement, comment imaginer la fin du web, ce qui, je pense, appelle bien des discussions et des débats. Voilà, je vous remercie.